Version originale. Aligre FM. Culture. Société. Création. Version originale. Patrick, Léon-Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à l'antenne du 93.1 pour une nouvelle édition de Version originale, comme chaque samedi, en direct à 19h. Je vous propose donc de nous intéresser à l'entrepreneuriat en France. Plus exactement, à l'histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France. C'est l'objet du livre d'Ahmed Bouzouaïd intitulé « Je dois faire du cash, boy ». Cette petite histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France est publiée chez Maison Maiguière, édition. Je dois faire du cash, boy, mais au jour que les quartiers ne sont pas que des territoires de relégation, mais des lieux vivants où naissent des projets d'entreprise et où se construit une francophonie économique tournée vers l'international. C'est l'histoire de l'entrepreneuriat d'hommes et de femmes vivant dans ce qu'on appelle à tort en France les marges. Je reprends cette belle phrase du livre de mon invité. Le quartier, c'est l'arbre qui cache la France. Bonsoir Ahmed Bouzouaïd. Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Vous êtes donc sociologue et urbaniste. Vous êtes donc formé à l'école de la boxe et de l'ultra trail. Vous avez donc grandi dans les quartiers populaires du nord-est de Paris. Et durant donc cette année, vous avez donc, je le disais, étudié la sociologie et l'urbanisme. À cela, vous avez ajouté un cursus d'économie sociale et solidaire. En quatrième de couverture, Ahmed Bouzouaïd, dont il est mentionné que vous êtes franco-algérien, originaire du désert. Que signifie être originaire du désert ?
Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, que signifie être originaire du désert ? Finalement, les hommes du désert sont des passeurs. Parce que c'est être habitué à finalement des territoires, des environnements hostiles. Et donc, c'est une existence qui est faite de résilience et de transformation, de difficultés. Je n'irai pas jusqu'à dire en facilité, mais je dirais en solution pour survivre. Et donc, être originaire du désert, c'est aussi un attachement à mes origines, à mes racines. Pour moi, c'est extrêmement important et de se reconnecter à ses ressources. Et d'ailleurs, c'est un clin d'œil aussi à l'idée de... Finalement, les hommes du désert sont des hommes du lien, de la relation. Parce que pour survivre, ils font le lien entre les peuples qui sont justement pas eux du désert, mais n'ont pas les aptitudes, les habiletés pour le traverser.
En janvier 2019, Ahmed Bouzouaïd, vous avez rejoint BPI France avec une mission que vous a confiée le gouvernement, stimuler les dynamiques entrepreneuriales dans tous les quartiers de France. Je rappelle donc que BPI, c'est la banque des entrepreneurs. Donc le désir d'entreprendre est le propos de votre ouvrage. En préambule de votre livre, vous soulignez, je vous cite, « Pour schématiser, ce désir d'entreprendre s'engouffre dans trois voies. D'une part, la tentation d'emprunter les raccourcis de l'illégal, et d'autre part, les deux trajectoires en vis-à-vis de l'engagement militant associatif et de la création d'entreprises. » Vous ajoutez donc, « Je vais donc m'attacher à parler dans les pages qui suivent de l'esprit d'entreprendre et de la manière dont il plane au-dessus des tours où j'ai grandi. » Vous avez donc choisi d'écrire un livre sur cette troisième voie. Alors, quelques mots donc sur la structure du livre. Que je ramasse mon papier. Il est donc composé de trois grandes parties qui regroupent 11 chapitres. À la fin de chacun de ces 10 chapitres sur 11, on trouve une sorte de conclusion intitulée « Note pour plus tard ». C'est une suggestion, c'est une sorte de recommandation douce. Et donc, l'aspect graphique aujourd'hui aussi, on en reviendra. Le livre en lui-même est un bel objet avec des couleurs chaudes et des photos, donc on reviendra sur cet aspect également. Alors, comme vous le suggérez, Ahmed Bouzouaïd, commençons par comprendre de quel quartier on parle. Le préambule s'intitule « J'écrirai quartier en majuscule ». Le choix du mot « quartier » a-t-il été facile pour vous ? Est-ce que c'est celui-là qui vous paraît pertinent, le plus pertinent ?
Très bonne question. Généralement, lorsqu'on parle des quartiers, la plus grande difficulté, c'est de les nommer. C'est Camus, je crois, qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Concrètement, les quartiers, lorsqu'on les évoque, on fait souvent des périphrases, on tourne autour, on parle de quartiers sensibles, on y ajoute des adjectifs. Si on parle de quartiers sensibles, c'est certainement pas pour l'amour, je dirais, de la poésie de ses habitants. Mais oui. C'est plutôt parce que il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Si on parle souvent des quartiers de façon négative, et d'ailleurs ils sont souvent parlés, c'est-à-dire ils sont parlés par des observateurs, des commentateurs, souvent de l'extérieur. Et de cette façon, ils sont, je dirais, plus objets que sujets. Lorsque je me suis dit, je veux parler de quartier, je dirais donc quartier avec une majuscule, c'est parce que je souhaitais finalement, orner ces quartiers de lauriers, rendre aussi leur lettre de noblesse. Et concrètement, c'était aussi une manière de reconnaître, peut-être inconsciemment, que c'était finalement le personnage principal de ce récit. Parce que finalement, les quartiers qui souvent ont été racontés, observés, comme des territoires relégués à la marge, je me rends compte, prenant du recul, je me rends compte que finalement, ils sont au centre de tous les sujets et aujourd'hui sont en train de se déployer à l'échelle internationale. Et ces dynamiques qu'on y retrouve, le monde qui s'y retrouve aussi, font que ces quartiers sont des territoires qui sont singuliers, n'est-ce pas, mais surtout centraux. En tout cas, c'est le cœur de ce propos-là.
En tout cas, vous précisez que l'histoire des quartiers populaires, c'est l'histoire de la conquête des espaces d'expression.
Tout à fait.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, les quartiers, concrètement, souvent, ils ont été racontés, ils ont été tués. Certains emploient une expression que j'aime pas trop. On dit ils sont silencieux. Il y a toujours une quête de légitimité derrière ces habitants des quartiers, derrière les différentes formes d'expression, le hip-hop y est né par exemple, qui émerge de ces territoires-là. Et ce qu'on retrouve finalement, je pense, un lien commun, c'est ce désir de se faire entendre, le désir de faire sa part. Si on se rappelle en 82 ou 83, il me semble, la marche pour l'égalité contre le racisme, elle avait un slogan qui résonne encore aujourd'hui, malheureusement. Il disait, ces jeunes et moins jeunes, qu'ils souhaitaient être des Français à part entière et non des Français à part. Donc c'est très symbolique et ça dit beaucoup de ce désir de se faire entendre, de conquérir justement ces espaces d'expression. Et il m'a semblé que les entrepreneurs des quartiers, finalement, au-delà de la dimension économique, au travers de leur geste entrepreneurial, ils portaient aussi cette dimension-là, celle de se faire entendre, celle d'être des contributeurs de la nation, et celle, je dirais, d'être des contributeurs tout simplement, de participer à transformer leur situation, mais plus largement la situation sociale.
Et vous, en ce qui concerne le hip-hop, Ahmed Bouzouaïd, vous dites que le hip-hop n'attend pas qu'on le convie, il occupe la place de qui il occupe la place et l'anime. Il invente, s'organise et génère une économie qui lui est propre. Vous ajoutez que l'état d'esprit entrepreneurial est inhérent à cette culture-là, d'audace et d'irrévérence. Et vous précisez également que c'est une discipline qui adopte le vocabulaire de l'adversité, manifestant un engagement dans la bataille, sans aucune intention de tendre l'autre joue. Ça, c'était très important. Et vous poursuivez en disant que la combativité joue un rôle central dans cette vision du monde, où l'une des clés de lecture est l'opposition binaire du non contre eux. Est-ce que vous ne craignez pas que le discours dominant, qui observe, comme vous l'avez dit, donc, ces quartiers, saisisse cet aspect pour dénoncer une prétendue violence des quartiers?
C'est déjà fait. En réalité, c'est déjà fait. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, effectivement, cette approche, cette énergie vital. Parce que c'est un élan vital, finalement, c'est une bonne nouvelle. Et parfois, il est tel qu'on le décrit, tel qu'il est décrit dans un mouvement qui était naissant, il y avait quelque chose peut-être d'adolescent. Comme dans toutes les démarches de construction de soi, à un moment, il y a quelque chose de l'ordre de, peut-être de la rébellion, de l'affirmation, et une énergie qui est peut-être un peu moins maîtrisée. Avec l'âge, l'intelligence, la maturité, je ne dirais pas qu'on s'assagit, mais on canalise. Et l'énergie, elle est utilisée, je dirais, à meilleur escient, et pour, elle est plus féconde. Et donc, à un moment, il y a cette démarche, je dirais, peut-être débordante, et peu à peu, et l'histoire l'a montré, que justement, à force de professionnalisation, d'expérience, de compétences qui ont été acquises, de complémentarité au travers d'acteurs, de nouveaux acteurs qui ont complété les écosystèmes, et ben ça a pu donner des choses assez incroyables dans différentes disciplines, différents secteurs tels que le sport, la food, la culture et différentes dimensions, l'édition. Et donc cette énergie, dès lors qu'elle est canalisée, qu'elle est accueillie de manière bienveillante, qu'on y met de l'intelligence, bah ça peut donner des choses admirables. Mmh. C'est aussi ça le propos de l'ouvrage.
Et vous n'oubliez pas de souligner le rôle des hommes et des femmes habitant ces quartiers au moment de l'épidémie du Covid.
Ah oui, c'est très 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 important comment ces hommes et ces femmes ont contribué à relever le pays. Déjà, on l'a dit de plusieurs manières. Parce que déjà, ce sont on parlait des aides-travailleurs peut-être de première ligne. C'est ceux qui, prenaient le métro à quelle heure ? À 5h, 6h du matin, 7h du matin, pour justement, c'était le caissier, c'était le pompier, le policier, toutes celles et ceux qui faisaient tourner la France littéralement. Mais aussi, c'est assez intéressant, les quartiers, la marche pour l'égalité contre le racisme qui a malheureusement fait un peu pchit, a été récupérée, mais a permis aussi de faire émerger tout un tas d'associations. Donc un vivier associatif qui contribue à apporter des solutions à tout un tas de problèmes qui restent orphelins. Donc lorsqu'on habite dans les quartiers ou lorsqu'on les connaît, on sait qu'il y a tout un tas d'associations qui apportent des solutions pour les personnes âgées, qui vont apporter des solutions pour le sport, l'éducation, l'aide aux devoirs, etc., etc. Et donc, durant cette crise Covid, ce sont ces mêmes associations qui ont aidé, là on est dans une université, qui ont aidé les étudiants à pouvoir manger, qui ont aidé les personnes âgées à pouvoir se ravitailler en portant leurs courses, qui ont aidé à faire des masques et à les distribuer. Et donc, c'est intéressant comment ce sont des quartiers qui ont contribué, qui ont développé ce système D, le D de débrouille, pour, je dirais, répondre à des problématiques qu'ils rencontrent, parce qu'ils sont les mieux ils sont plus proches des réalités et parfois, et certainement, les premiers concernés.
Et vous dites que des tentatives de régulation de ces économies naissantes sont initiées par des associations et les pouvoirs publics. Il y a des programmes qui proposent d'aider à formaliser certaines de ces activités de subsistance. Est-ce que ça a pris finalement ? Alors, avant de parler de votre expérience chez BPI France, on va en parler bien sûr, mais est-ce que ces tentatives, ces tentatives de régularisation au sens... administratif, au sens juridique, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que ça a été efficace ?
Ces quartiers, bien entendu, concentrent aussi de la précarité. Mais pour sortir de la précarité, il y a tout un tas de manières, de façons, d'ingéniosité pour survivre. D'ailleurs, comme on le trouve partout, à ceci près que dans les quartiers, le système D fait justement système. Et donc, ça va être tanti. Qui va faire des jus, qui va distribuer au bissap ou au gingembre durant l'été, qui va faire des glaces également, qui va faire des beignets. Ça va être ces migrants qui viennent, par exemple, du Pakistan et qui vont faire du maïs grillé, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces activités existent, sont des activités de survie. En réalité, elles ne concurrencent pas le marché parce qu'elles n'adressent pas les mêmes publics ou elles ne répondent pas aux mêmes besoins. À mon sens, il y a une chose qui est très positive, c'est qu'elles contribuent à animer la rue. C'est pour ça aussi que les quartiers sont aussi des quartiers animés, parce qu'il y a ces activités-là. Mais l'animation des rues, ça contribue à leur pacification. Parce que concrètement, la nature a horreur du vide. Mmh. Et des rues qui ne sont pas animées sont des rues qui sont anxiogènes et qui seront après occupées par d'autres activités qui seront parfois moins tolérables, je dirais. Mais ce qui est intéressant pour répondre à votre question, c'est que effectivement, certaines de ces activités sont en capacité de basculer dans le légal, hein, disons les choses. D'autres le sont moins parce qu'en réalité, ce sont des économies de subsistance. Et ne serait-ce que la pression fiscale rendrait impossible la formalisation de ces activités. Donc il y a tout un tas de continuum d'activités qui seront, je dirais, qui vont du bricolage jusqu'à des formes un peu plus qui sont plus ou moins formalisables. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de défricher ou d'explorer ce qui peut contribuer à dépasser la dimension d'une économie de survie. Et d'ailleurs, je terminerai sur ce point, l'économie sociale et solidaire qui s'est justement intéressée à ces territoires au travers de ce qu'on appelle aussi l'innovation sociale, à essayer de comprendre comment, à partir du social, à partir du social et de ses problématiques et la manière dont on allait répondre à des besoins qui étaient réels, tout à l'heure je disais des besoins orphelins, eh bien on allait créer de l'économie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Ahmed Bouzouaïd est mon invité. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions Maison Mégayère, « Je dois faire du cash boy ». Vous soulignez que le peuple des habitants des quartiers est né avec la politique de la ville. Et vous rappelez donc en 1992 le rôle de Bernard Tapie, entrepreneur, on va voir qui a un peu mal tourné, mais quand même qui avait une image assez, comment dire, adéquate par rapport à cette figure de la ville. En quoi consiste une politique de la ville ? Qu'est-ce que c'est ? Quand on dit politique de la ville, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les quartiers ?
Très bien. Alors la politique de la ville, il faut l'entendre que c'est la politique des quartiers. Donc la politique de la ville, effectivement, il y a eu différents cycles de la politique de la ville, et elle a eu vocation à apporter des solutions pour transformer ces territoires. Historiquement, elle a surtout travaillé, elle a évolué au travers de deux piliers. Le premier, qui est la cohésion sociale, avec une idée forte, si l'on souhaite que ces territoires se développent, il faut qu'ils s'apaisent, il faut aussi apporter des solutions aux habitants, des solutions qui ont trait, qui sont en lien avec l'employabilité, l'éducation, le sport. Historiquement, beaucoup de solutions liées à l'occupationnel, des associations qui allaient, animer ces territoires. Peu à peu, a émergé un autre levier, à côté de la dimension sociale et de cohésion, un second levier, qui est celui du bâti. Comment on va transformer le visage de ces quartiers ? C'est les quartiers qui ont été aussi élaborés, qui ont été bâtis à la va-vite, parce qu'il fallait apporter des solutions à tous ces travailleurs.
Qu'on
a fait venir. Exactement, il faut le rappeler. Mmh. Et du coup, on a voulu, je dirais, transformer ces territoires pour pas qu'ils ressemblent ou pour qu'ils deviennent des ghettos. Et donc, il y a eu tout un travail de désenclavement, de démolition, reconstruction, qui a été porté par l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, qui portait ce qu'on appelle le côté hard. En fait, souvent, les professionnels, ils parlent du hard et du soft. Le soft pour le social et l'humain, le hard pour le bâti et la construction. Et ce qui est intéressant, c'est que ce travail a consisté à travailler sur le désenclavement de ces quartiers, les ouvrir, les relier au reste de la ville, donc des vraies questions de mobilité. Donc c'est là qu'on a pu apercevoir, plutôt faire venir des tramways, relier les quartiers de manière concrète avec des moyens de transport. Ça a été changer le visage de ces quartiers qui n'étaient que des tours de béton initialement. Et donc ça a été varier la typologie d'habitat. Ça a été également améliorer le cadre de vie avec de la végétalisation, etc., etc. Donc ces deux piliers ont vraiment contribué à faire évoluer le visage des quartiers, mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas. pour une raison très simple, il fallait aussi amener de l'économie dans ces territoires. En 2014, le ministre Lamy ajoute un troisième pilier à la politique de la ville. À l'humain et l'urbain, on ajoute le troisième pilier du développement économique. Et donc, on a aussi une logique de comment on va faire du développement économique intégré, c'est-à-dire relier la dynamique des quartiers au reste de la ville. Donc c'est un peu les enjeux au cœur de cette réflexion-là. Et donc ça va supposer faire venir des entreprises avec une logique de développement de liens qui est plutôt exogène. Et donc on va aider les quartiers à se développer à l'aide de l'extérieur. Et de plus en plus, la réflexion qui va naître, c'est une réflexion de développement endogène. C'est-à-dire comment on va développer les quartiers à partir de l'intérieur. Mmh. Et l'un des leviers sera la création d'entreprises. Pourquoi pas accompagner les habitants des quartiers à devenir des entrepreneurs, à apporter des solutions à ces territoires et au-delà, et s'inscrire dans des parcours d'insertion, d'intégration. Tout à l'heure, j'écoutais une prise de parole d'un homme politique qui disait « Oui, comme il y a très peu d'emplois où on peut souffrir de discrimination lorsqu'on est issu de ces territoires, parfois, malheureusement, l'une des seules solutions qui se présentent à ses habitants, c'est de créer soi-même son entreprise. »
Et vous-même, Ahmed Bouzouaïd, en 2019, vous rejoignez donc BPI France, la banque des entrepreneurs, avec pour mission de stimuler les dynamiques entrepreneuriales dans tous les quartiers de France. Alors, comment ça se passe, les premiers pas? Quelles sont vos premières actions? Qu'est-ce que vous faites concrètement à cette mission-là, à ce poste-là?
La première chose, ça a été de diagnostiquer le problème. Si les entrepreneurs des quartiers, déjà qui sont-ils, quels sont leurs besoins et comment les adresser au mieux? Il faut savoir une chose. Déjà, en France, on a un écosystème pour accompagner les créateurs qui est plutôt foisonnant. Concrètement, dès lors qu'on veut créer une entreprise, il y a des associations qui sont soit dans l'accompagnement, c'est-à-dire qui vont vous aider à structurer votre projet, à définir l'ensemble des phases qui vont de la trajectoire entrepreneuriale et vont sécuriser votre déploiement.
C'est-à-dire que de façon globale, toute personne qui souhaite créer une entreprise trouve des conseils, un accompagnement assez facilement.
Et c'est gratuit. Il ne faudra pas dire que c'est gratuit, c'est pris en charge par des partenaires publics comme BPI France, la Banque publique d'investissement, mais aussi les collectivités territoriales, les régions et tout un tas de partenaires qui rendent ça possible. Également, à côté des associations d'accompagnement, on a des associations qui sont dédiées au financement. Et donc, elles vont principalement vous proposer ce qu'on appelle du PH. Du PH, c'est du prêt d'honneur. Donc, on imagine que certains créateurs n'ont pas de fonds propres. Et donc, on va leur prêter des fonds pour renforcer leurs fonds propres. Donc, comme c'est un prêt, on appelle ça du quasi-fonds propres. Et ces PH, ces prêts d'honneur, vont leur permettre de démarrer avec un capital de départ qui pourront rembourser, ils rembourseront ce prêt. C'est un prêt à taux zéro. Et ce prêt, il va leur permettre aussi de lever d'autres argent. Par exemple, aller chercher de l'argent à la banque. Parce que quand vous allez rencontrer votre banquier, il va vous demander « Ok, moi je veux bien miser sur vous, mais qu'est-ce que vous misez sur vous ?» Et quand on n'a pas d'argent, le prêt d'honneur, les quasi-fonds propres, peuvent être une solution. Donc il y a ces associations-là. Ensuite, il a fallu comprendre qui étaient ces entrepreneurs des quartiers et comment les adresser. La première chose, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai désir entrepreneurial dans les quartiers qui est parfois même plus fort, plus puissant qu'ailleurs, qu'ailleurs sur le territoire. Seulement, il y a des problématiques qui sont liées à trois aspects. En gros, quand on va créer sa boîte, ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on appelle les capitaux dont on dispose. Quels sont ces capitaux? Le capital économique, je viens d'en parler. Le capital culturel, concrètement, qui va être lié aux connaissances, aux compétences, à l'ingénierie qu'on va maîtriser sur l'entreprise elle-même. En gros, c'est ce qu'on va acquérir lorsqu'on va faire une école de commerce, par exemple. Et également le capital relationnel qui est décisif. Concrètement, lorsque vous déployez votre business, qui va vous mettre en relation avec des apporteurs d'affaires, avec du business, avec des partenaires, avec des financiers? Et le capital relationnel, il va faire toute la différence. Et lorsqu'on vient des quartiers, potentiellement, on est en déficit de ces trois capitaux. Et donc l'enjeu, c'est de faire la différence. On s'est rendu compte que lorsqu'on s'interroge sur les entrepreneurs des quartiers, ils arrivent très vite à lancer des business. On l'a vu déjà lorsqu'ils bricolent, entre guillemets, ils vont apporter des solutions parce qu'ils vont identifier des problèmes qu'ils côtoient. Mais l'enjeu, ça va être de, dès lors qu'ils vont se structurer, dès lors qu'ils vont créer l'entreprise, comment ils vont pouvoir se déployer. Dans un premier temps, dans une logique de développement endogène, ils vont réussir à structurer un business, se développer, le rendre viable dans leur univers immédiat. Seulement, tout à l'heure, on a parlé de la crise Covid. On s'est rendu compte que les entrepreneurs des quartiers, finalement, cette force qu'était leur réseau, le quartier qui était une force de départ, pouvait très vite devenir un enfermement si on n'a pas les relais pour déployer au-delà de ce périmètre. Mmh. Et donc l'enjeu de ces solutions d'accompagnement vise justement à leur donner la structuration, les outils, la vision aussi pour voir plus loin. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi un quatrième levier, c'est celui de l'auto-censure. Dire, bah, c'est pas pour moi, se fermer la porte.
Et c'est ça, comment on arrive à le dépasser, ça, cette auto-censure, qui est quand même pas la moindre des choses, quand même.
Tout à fait. Bah, concrètement, quand vous avez grandi et vous n'avez pas eu autour de vous un environnement où on vous a dit vous êtes beau, vous êtes belle, on ne vous a pas tendu la main, vous n'avez pas regardé ou identifié la fierté dans les yeux d'un adulte, d'un père, qui va vous aider à vous construire et à célébrer chacune de vos petites victoires. Finalement, votre confiance en vous-même, elle est un petit peu fébrile. Mmh. Et donc, l'enjeu, c'est de renverser la vapeur. Comment on renverse la vapeur ? Grâce à tout un travail qui va permettre à ces femmes et ces hommes d'identifier que finalement leur trajectoire est ponctuée de réussites. Des réussites invisibles, des réussites silencieuses parce qu'ils ne les ont pas nommées, parce qu'ils ne les ont pas soulignées, parce qu'on ne leur a pas signalé. Et donc il y a tout ce travail de construction, de consolidation de qui ils sont. Donc ça passe aussi naturellement par reconquérir la narrative. Mmh. L'histoire de l'entrepreneur du quartier, l'histoire de la conquête des espaces d'expression. Reconquérir la narrative pour leur dire « oui, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes capable ». Et donc ce travail-là, il est essentiel parce qu'en réalité, finalement, entre deux entrepreneurs qui partiraient avec les mêmes chances, celui qui a confiance en lui peut-être fera plus preuve d'audace pour aller chercher les solutions et les capacités de transformation de son projet que celui qui s'auto-censure et qui a un projet génialissime, mais qui, par manque d'assurance, prendra la poussière dans un placard.
Et vous considérez aussi que l'acte même de migration, le fait de quitter son pays et de venir s'implanter en France, devrait être un des éléments permettant d'avoir confiance en soi. Parce que, d'après ce que vous dites, Ahmed Bouzouaïd, c'est quand même un acte déjà proche de l'entrepreneuriat. On a entrepris quelque chose qui n'est pas simple. Et comme si prendre conscience du fait qu'on a migré fait partie donc des ressources qui peuvent donner confiance pour entreprendre aussi.
Ah, merci beaucoup de le souligner parce que effectivement pour moi c'est très important. D'ailleurs j'ai décidé de démarrer le livre, le premier chapitre s'appelle « Nos parents immigrés, ces entrepreneurs qu'on ignore ». Pourquoi j'ai voulu en parler ? Parce que souvent il y a un peu une phrase qui revient tout le temps qui consiste à dire que les entrepreneurs des quartiers n'ont pas de rôle modèle et ils souffrent de l'absence de rôle modèle. Et à mon sens, il y a finalement un geste entrepreneurial dans la migration qui est passé sous silence et qui mériterait d'être conscientisé justement pour pouvoir le en tirer les fruits. Je m'explique. D'ailleurs, aujourd'hui, on a l'ère de l'IA. Et l'IA, chaque jour, elle évolue, elle transforme le monde, elle le bouleverse. L'IA, elle repose sur des data, les données qui vont alimenter l'algorithme. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, la technicité, l'ensemble des métiers, l'ensemble des process sont totalement maîtrisés par l'IA, par la machine. Donc, j'aime à dire que l'IA a fait en sorte que les cols blancs sont devenus les nouveaux cols bleus. Si je dis ça, c'est pour une raison très simple. C'est que souvent, lorsqu'on parle des entrepreneurs et au-delà dans le monde professionnel, les professionnels distinguent les hard skills des soft skills. Les hard skills qui consisteraient à l'expertise, aux compétences techniques, là où les soft skills représentent, elles, plutôt tout ce qui va être en lien avec le savoir-être, la capacité à se mettre en lien, à déployer, à structurer une pensée, etc., etc. Et ce qu'on dit, en fait, quand, pour revenir à nos entrepreneurs, c'est que ces entrepreneurs, finalement, n'ont pas de rôle modèle, donc n'ont pas pu modéliser des soft skills. Moi, je dis non, c'est faux. Parce que leurs parents, lorsqu'ils ont mené un projet de migration, ils ont fait bien plus fort, bien plus grand, bien plus décisif qu'un projet entrepreneurial. Parce qu'ils sont allés au-delà de leur peur. Ils ont dépassé leur zone de confort, du moins ils l'ont élargi. Ils ont porté un projet qui, je dirais, est beaucoup plus important qu'un projet entrepreneurial, c'est un projet de vie. Et donc, la résilience, la détermination, l'audace qu'il faut pour mener à bien ce projet, il me semble qu'il y a des enseignements riches dont on se prive si on regarde le verre à moitié vide, alors que ce livre, il est finalement éminemment optimiste et il invite à regarder le verre à moitié plein et se rendre compte de ce geste entrepreneurial passé sous silence.
On va continuer à parler donc de cet optimisme avec vous, Ahmed Bouzouaïd. Je rappelle le titre de votre livre, « Je dois faire du cash, boy », c'est aux éditions Maison Mégayère. On écoute la musique qui a inspiré le titre du livre.
Yeah.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Jamais rien sans rien, nouvelle année, nouvelle ère, nouvelle réalité. Le fric contrôle le monde et dans le ghetto beaucoup de salauds sont armés. Frère, adopte une nouvelle attitude et j'en suis. Je veux du fric, j'ai des tripes mais aussi beaucoup d'esprit. Le manque d'argent m'étouffe, j'ai un pied plein du gouffre. Si tu me pousses on saute tous car dans ma tête tu es devenu ouf. Je fais des choses dont je me serais jamais cru capable. À croire que récemment j'aurais conclu un pacte avec le diable. J'affronte les rues du quartier, les plus jeunes se mettent à dealer. Plus ils s'empochent dans leur poche et plus ils gagnent le respect. Franchement obligé de bouger lorsque marche dessus, je dois faire du cash, sinon je suis perdu.
Je dois faire du cash, boy, je dois faire du cash, sinon je suis plus rien. Le système me nique, je stagne, je progresse plus. Des embrouilles me tombent dessus, je perds le respect dans la rue. Si je ne tire pas sur certains trous du cul, je dois faire du cash, sinon je suis plus rien. Le système me nique, je stagne, je progresse plus. Des embrouilles me tombent dessus, je perds le respect dans la rue.
Je dois faire du cash, boy, je dois faire du cash, sinon je suis plus rien. Le système me nique, je stagne.
Idéal J, je veux faire du cash, en rapport bien sûr avec le titre du livre d'Ahmed Bouzouaïd qui est mon invité. Je dois faire du cash, boy, c'est aux éditions Maison Mégayère, la petite histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France. Continuons un peu sur votre mission au sein de BPI. Donc en 2024, donc, il y a le projet Quartier 2030. Avec un budget de 456 millions d'euros. Là encore, quel est l'objectif de ce programme ?
Bah, concrètement, ce programme, pour le simplifier, il va structurer en trois axes. Le premier, c'est véritablement mailler le territoire et faire en sorte que les entrepreneurs, où qu'ils soient, puissent avoir accès à des solutions pour entreprendre. Donc il y a une vraie démarche d'aller vers. S'ils ne viennent pas vers les solutions, on ira vers eux. Donc il y a ce qu'on appelle des Cité Labs. Les Cité Labs sont des femmes et des hommes dont le métier, c'est d'aller les chercher, d'aller sur le terrain, d'aller les rencontrer pour les motiver et les aiguiller vers les solutions pour entreprendre. Il y a des bus, des jolis bus jaunes qui se déploient partout en région avec cette vraie idée de mobilité. Mobilité, le bus, en gros, concrètement, il va motoriser l'aller vert. Il va démultiplier, il va industrialiser l'aller vert. Il y a aussi également les carrefours de l'entrepreneuriat. Donc c'est des lieux qui sont au cœur des quartiers et qui vont accueillir l'ensemble des solutions pour entreprendre. Ces lieux sont identifiables, sont des lieux accueillants où on va accompagner les entrepreneurs, quels que soient leurs besoins, avec des solutions de financement, d'accompagnement, des solutions d'excellence, des solutions plus éphémères en matière d'accompagnement, etc. Ça, c'est le premier axe. C'est vraiment le maillage territorial. Le second axe, il va plutôt répondre aux logiques d'accompagnement-financement. L'accompagnement-financement, l'idée, c'est d'apporter des solutions aux entrepreneurs qui créent pour les aider à structurer leur business, le consolider, le sécuriser et je dirais aussi le financer, car une entreprise finalement c'est comme un enfant qui vient au monde, il a besoin de manger pour grandir. Donc il va y avoir tout un tas de solutions qui vont être portées par les associations du collectif CapCréa. CapCréa, c'est un collectif national qui va regrouper les acteurs de l'accompagnement et du financement. Enfin, il y a un troisième axe qui va apporter un ensemble de solutions plutôt premium pour des entrepreneurs à fort potentiel, donc qui veulent s'investir très fortement dans leur projet, qui ont le temps, l'ambition. Et l'idée du programme, c'était de se dire qu'il fallait apporter des solutions pour tous, pour toutes les formes d'entrepreneuriat, que ce soit un entrepreneuriat solitaire ou un entrepreneuriat plutôt collectif, ou je dirais plutôt ambitieux, qui va s'inscrire dans la tech, qui va s'inscrire dans un projet de création d'entreprise. Il faut savoir, certains créent leur emploi, d'autres créent une entreprise ou partent avec l'intention de créer une entreprise. Donc, si c'est le cas, il faut qu'on puisse apporter des moyens à l'image de leurs ambitions. Donc, ça va être des solutions d'accélération. En gros, ils vont intégrer une promotion d'entrepreneur et vont être accompagnés par des experts de manière intensive pendant le temps long. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment des game changers. Ça va véritablement leur permettre de changer d'échelle.
Et là, vraiment, vous rencontrez des hommes et des femmes qui... dites-moi un peu qui vous rencontrez, l'énergie qui se dégage de ces personnes. Comment ça se passe? Imagine, ça durait de plusieurs années.
Bien sûr, ça fait 7 ans maintenant, aujourd'hui. Et je le faisais déjà avant. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est une chose déjà. Un entrepreneur des quartiers, c'est avant tout un entrepreneur. Donc concrètement, il va avoir des problèmes d'entrepreneur. Il a besoin de réseau, il a besoin d'argent, il a besoin de financement. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, les quartiers, on va rencontrer des difficultés parce qu'ils vont avoir des déficits en matière sur ces trois capitaux. Mais une fois qu'on a dit ça, on va avoir des offres, des projets, des entreprises dans tout secteur d'activité, dans la food, dans la tech. Ce que j'entends par tech, c'est des projets qui sont en lien avec l'innovation. Ils vont développer peut-être des solutions en ligne. Certains sont dans la biotechnologie. Je vous parlais de 2-3 projets assez inspirants. Je pense à Fawzi An-Najah et Ibrahima Sissoko qui ont quand même déployé un projet qui s'appelle Namix. C'est un SUV à hydrogène. Et donc, c'est une boîte franco.
C'est une voiture.
Une voiture, c'est un SUV. Oui, effectivement, merci. Donc, c'est assez... Et ce qui est intéressant, je salue Fawzi et Ibrahima. Fawzi, son papa, était ouvrier chez Renault. Aujourd'hui, il est en train de déployer un SUV. Donc, c'est un projet qui est considérable. D'autres projets, j'en compte régulièrement des entrepreneurs qui sont dans la food, qui déploient des franchises. Je vais les citer Chicken Street, qui aujourd'hui est une franchise internationale qui a commencé en Île-de-France, s'est déployée partout en France. Et ce qui est intéressant dans ce terme Chicken Street, c'est qu'ils ont assumé la rue, les quartiers. Finalement, ce marqueur, ils ont renversé le marqueur qui était négatif, ils ont fait une médaille. Et c'est aujourd'hui un élément d'identification et qui permet de déployer tout un imaginaire derrière leur projet de food. C'est du fast-food, en fait, concrètement, dont le cœur d'activité est lié autour du poulet. Et ils l'ont déployé partout en France, au Maghreb, au Sénégal, à Dakar, à Montréal, au Canada. Et donc, c'est une franchise incroyable qui se déploie. Je vous parlais de Food Corner. Food Corner, Biram, qui vient de Roubaix, le bassin minier en haut de l'île, il déploie un concurrent de Foot Locker. Il a, avec une stratégie marketing incroyable, il fait preuve d'une intelligence remarquable pour se distinguer, pour créer un modèle économique viable, toujours en se disant, voilà, moi, ce que je connais bien, c'est la niche des quartiers, donc je vais être le premier à adresser les quartiers. Et aujourd'hui, c'est une franchise qui se déploie partout. Donc, c'est intéressant, ces entrepreneurs qui, le fait d'être en immersion dans ces territoires, ils sont en éveil, ils sont connectés aux solutions. C'est comme aujourd'hui... Madame la Présidente, Myriam Kali Malone, ou j'ai pensé tout à l'heure à Kelly Massol qui a développé Les Secrets de Loli. Ce qui est intéressant, c'est que leurs connaissances de population font qu'elles peuvent adresser un marché qui est boudé par les grandes enseignes. Mmh. Et donc, elles ont apporté les premières solutions industrie scalables, commercialisables finalement à l'échelle mondiale sur tout ce qui va être le cheveu texturé. Mmh. Qui aujourd'hui, par des grandes enseignes donc, que je ne citerai pas, n'étaient pas adressées. Donc elles ont pu identifier non seulement, je dirais, ces marchés, ces besoins, apporter des solutions à des problèmes réels, et aussi, il me semble que leur intelligence de ces territoires-là, de ces populations, de la niche qu'elles adressent, font qu'elles sont meilleures, elles sont mieux placées pour les adresser de manière intelligente, élégante, astucieuse et efficace comme leurs entreprises florissantes le démontrent.
Et on découvre dans le livre ce que vous nommez donc la francophonie économique. Vous dites que les quartiers mettent le cap sur l'Afrique pour entreprendre et cela est plus qu'un effet de mode.
C'est ça, tout à fait. Bon, en réalité, initialement, quand j'embarque sur le bateau BPI France, j'embarque pour travailler sur l'enjeu des quartiers. L'histoire de l'immigration, de la colonisation et finalement l'histoire de ces quartiers font que ils sont des territoires d'accueil qui accueillent aussi beaucoup l'Afrique. Et donc, concrètement, tout au long de mes pérégrinations, des rencontres de ces entrepreneurs, un besoin naissait, à savoir celui d'avoir des offres d'accompagnement pour tous celles et ceux qui veulent faire le lien avec le continent. Et donc, ça se concrétisait par trois typologies d'entrepreneurs. Des entrepreneurs issus qui débarquaient du continent et qui voulaient créer ici. Bon, là, il y a toutes les solutions que j'ai évoquées. Une seconde typologie, c'est plutôt des entrepreneurs ici qui veulent tout de suite s'exporter. OK. Et la troisième typologie, c'est plutôt des entrepreneurs qui ont créé ici, qui ont consolidé des business avec des modèles économiques viables et performants et qui veulent développer ensuite en Afrique. Et donc, ces trois typologies avaient besoin qu'on leur apporte des solutions. Et donc, ça fait des années, je m'intéresse à ça, une dizaine, et je me rends compte que je rencontre en fait ces diasporas entrepreneuriales qui font le lien avec le continent, il me semble, pour trois raisons. La première, c'est qu'il y a une logique d'appartenance et d'attachement, c'est la manière de se reconnecter. Ce chapitre s'appelle, je crois, l'envol vers ses racines. Et donc, l'enjeu, c'est de refaire connaissance avec soi. Et donc, il y a peut-être cette dimension-là. Il y a une seconde dimension, il me semble, qui est très importante, c'est de fonctionner en réseau. Parce qu'on l'a dit en introduction, un entrepreneur qui est efficace, un entrepreneur qui est performant, c'est un entrepreneur connecté. Et donc, ils font, c'est voltairien, c'est le Candide, ils cultivent leur jardin. Donc, il y a cette deuxième dimension. La troisième dimension, il y a une logique, un désir de faire sa part. C'est un peu la part du colibri de Pierre Rabhi, à savoir quel give back, c'est une logique de give back avec le pays. C'est-à-dire, voilà, nos parents sont venus. Aujourd'hui, comment nous, on peut, par effort, par reconnaissance, contribuer à des investissements productifs? Donc, comment ça va se concrétiser? De trois manières. La première, c'est ces diasporas qui s'organisent ici, dans l'Hexagone. Donc, de manière souvent autour d'enjeux culturels. Il y a d'abord le premier enjeu, c'est se reconnaître. Mmh. Je pense à Comlink, par exemple, une association de la diaspora comorienne. Ce sont des entrepreneurs. Sachez que le premier projet qu'ils ont organisé, c'est réaliser le premier dictionnaire comorien. Le second volet, c'est plutôt en faisant le bridge, créer des ponts, des passerelles avec le continent. Et le troisième levier, ça va être vraiment investir dans des projets au pays. Je rencontre des projets de toute nature. J'en évoquais tout à l'heure avec Chicken Street, par exemple.
Qui était création en version originale, Patrick Léon-Émile. Toujours en compagnie d'Ahmed Bouzouaïd pour son livre « Je dois faire du cash boy ». C'est aux éditions Maison Mégayère. Alors, c'est, avant de parler de vos entreprises à vous, Ahmed Bouzouaïd, restons sur une anecdote que j'ai trouvée intéressante dans votre livre. Vous dites, George Bush, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mots en français pour traduire entrepreneur? Il ne savait pas que c'était un mot français. Et ça, c'est assez révélateur, c'est très anecdotique, mais vous l'avez mis là, c'est pour montrer qu'en France, il y a encore du chemin à faire pour développer cet esprit dans l'entreprise, finalement. Et comme si... ces personnes, ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrés, dont vous parlez, vous les sentez déjà lancés dans cette phase-là.
Oui, oui, oui. Même si, je dirais aussi, pour nuancer, j'ai fait une intervention il y a quelques jours dans le groupe Innove. Et donc, il y avait peut-être 500 étudiants. Et on a demandé à main levée qui avait un désir d'entreprendre. Et 50%, la moitié... on dit qu'ils souhaitaient entreprendre. Donc il y a un chemin qui a été parcouru. Je pense que moi, à mon époque, il y a 25-30 ans, si on demandait qui voulait être entrepreneur, on aurait peut-être été 10, peut-être 20%. Même pas, je pense qu'on n'aurait pas été 20%. Et donc là, c'est intéressant parce que 50% de la salle, on était 500, on déclarait qu'ils souhaitaient, avaient l'intention, sont des intentionnistes. Ils veulent se lancer dans ce projet entrepreneurial.
Et vous-même, comment vous est venue cette envie d'entreprendre? Est-ce qu'avant d'intégrer BPI France, vous aviez déjà cette envie? Mais c'est cette expérience qui vous a donné envie donc, de le faire?
Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aime me dire que finalement, ma carrière entrepreneuriale a commencé en ouvrant des squats pour organiser des concerts de rap. Parce que le désir d'entreprendre, littéralement, ça a été pour moi de conquérir des espaces d'expression. Mmh. Et donc, au début, ça a été véritablement exprimer une fibre artistique, on va le dire. Et peu à peu, comprendre qu'il y avait de la valeur et comment transformer cette valeur, je dirais la monétiser, cette valeur. Peu à peu, ce désir est venu parce qu'il fallait bien remplir le frigo, comme dirait l'autre. Ensuite... durant mon parcours scolaire, j'ai créé avec des amis une association qui s'appelait AVA. AVA pour Action Vers l'Avenir, Vers VERT. On faisait de la végétalisation urbaine, de l'agriculture urbaine pour être précis. On développait des jardins partagés. Ce n'était pas encore la mode. Je me rappelle à l'époque, le maire, là, c'est les municipales, le maire adjoint à l'environnement, c'était Yves Contasso. Et quand on avait présenté le projet, il pensait pas que les Parisiens allaient jardiner. Et donc, on était vraiment des précurseurs du jardin partagé. Et nous, on avait monté cette association et on vendait l'ingénierie, cette capacité à accompagner les habitants, les bailleurs, les bailleurs du logement social, j'entends les entreprises, les territoires dans la mise en place de jardins partagés. Accompagner le jardinage en ville. Donc on a déployé, développé tout cela et peu à peu ça m'a mené, parce que je faisais ça en parallèle de mes études, donc je suis quelqu'un d'un peu, on va dire, d'hyperactif.
C'est pas facile de mêler les deux, bien sûr.
Pour moi c'était facile parce que quand on aime, on ne compte pas.
Oui.
Et donc vraiment j'étais porté vraiment par la passion et je ne comptais pas. Et donc du coup, durant mes études, d'urbanisme et de sociologie, on conduisait cette association-là qui nous a permis de faire des voyages au Canada, en Italie, etc. Et ça a été véritablement l'occasion d'acquérir de nombreuses compétences. Je termine mes études de sociologie et je me rends compte, parce que j'ai fait un stage professionnel chez GDF Suez, c'est Engie qui s'appelait GDF Suez à l'époque, j'ai vécu la transformation à l'intérieur, un énergéticien, que mon savoir-faire, plutôt ma capacité à proposer des conseils, se monétise. Et donc, je décide avec mes amis de créer une agence de conseil qui s'appelait Muse des territoires, Muse pour management urbain, socio-économique, pour le développement des territoires. la muse, parce que la muse, elle inspire. Mmh. Notre slogan, c'était inspirer, concevoir, concevoir, inspirer, concevoir et concrétiser. Et on concrétisait donc des projets urbains avec les habitants et tous ceux qui font la ville. Pour ce faire, on remporte un concours qui s'appelait, et qui s'appelle toujours Talents des Cités. En 2019, on est lauréat national. Et ça a été une belle aventure de presque 8 ans qui nous a permis de faire toutes les conneries qu'il ne faut pas faire lorsqu'on entreprend. Mais en fait, faire des bêtises, c'est la meilleure manière d'apprendre. Mmh. Et ce que j'aime dire, c'est que finalement, ce parcours entrepreneurial, à défaut de m'avoir rendu riche, il m'a rendu riche, je dirais, il m'a rendu riche en connaissances, en compétences, comme si j'avais fait 2-3 MBA. Et surtout, on s'est bien marré.
Et il faut rappeler aussi que la maison d'édition Maison Méguer, c'est aussi un projet.
Tout à fait, donc, plus qu'un projet aujourd'hui,
oui,
elle existe
absolument.
Et j'ai eu l'honneur de la monter avec mon ami et frère et associé Youssef Soukouna, aussi plus connu sous le nom de Sefiu, un rappeur incroyable et au-delà d'être... excellent lorsqu'il kick avec un micro, il est surtout une personne humaine vraiment généreuse, tournée vers les autres et vraiment véritablement visionnaire. Il est visionnaire comme il l'a été avec son rap et ce qui lui a permis par exemple de remporter les victoires de la musique. Mais aujourd'hui, il déploie tout un tas d'autres projets et je suis très honoré de pouvoir l'accompagner là-dessus, comme je suis très honoré d'avoir pu déployer ce projet d'édition, de maison d'édition avec lui.
Alors, il faut le préciser parce que c'est une... Quand on voit ce livre-là, Je dois faire du cash boy, c'est un livre plutôt assez luxueux. C'est pas comme les livres d'art de luxe, mais c'est quand même parce que il y a des photos, un graphisme avec des couleurs différentes. Donc, c'est un positionnement... Alors, mis à part le fait de raconter cette histoire de l'entrepreneuriat qu'on est en train de faire... Vous souhaitez donc recevoir d'autres auteurs pour les éditer. Vous avez une ligne éditoriale qui définit comment ça se présente?
Bah alors, plusieurs choses. Oui, en fait, on a lancé cette maison d'édition parce que, un peu comme dans la nature du hip-hop, le hip-hop, lorsque Spike Lee qui dit ça, lorsqu'il y a le film qui parle de toi ne te plaît pas, bah, tu fais ton propre film. Et donc, s'il n'y avait pas de livre qui nous racontait notre histoire, on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Mais ce qui est important, c'est comme pour l'énergie, c'est comme pour les réseaux sociaux, finalement, celui qui contrôle le game, celui qui contrôle les tuyaux, celui qui contrôle la plateforme. Donc, on s'est dit qu'on voulait créer cette plateforme pour pouvoir porter des voix, porter... pas essentiellement nos voix, mais des voix qui résonnent avec cette idée de la singularité des marges, mais avec ce désir de les sublimer. On a donc opté pour proposer des livres, des beaux livres. Mm-hmm. Des beaux livres parce qu'on veut proposer du beau, du sublime, parce que comme les pensées qu'on veut partager. Je ne sais plus qui dit, c'est Victor Hugo qui dit que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et donc, pour cette raison-là, on souhaitait véritablement avoir un beau livre parce qu'on s'adresse au quartier, mais on ne s'adresse pas qu'au quartier, mais on veut que les quartiers puissent avoir du beau, avoir un bel objet. Et souvent, je dis à des amis qui l'ont acheté, je fais au pire, si tu ne lis pas, parce qu'ils me disent, je l'achète pour te donner de la force, mais pas, je ne vais pas le lire, je ne lis pas trop. Je dis au pire, bah, il va égayer ta bibliothèque, tu seras fier, tu auras un très beau livre dans ta bibliothèque. Mais indépendamment de ça, pour nous, il est important parce que... De réaliser un très bel objet à l'ère où tout est numérisé, tout est digitalisé. Et c'est pas aller à contre-courant. Au contraire, je pense qu'on est au cœur de ce qui est important, de ce qui compte. Et un beau livre, ça compte parce qu'un beau livre, ça se passe, ça se partage. Même si celui-ci, je pense que beaucoup voudront le garder plutôt que de le partager.
C'est vrai.
Mais indépendamment de ça, ça dit plusieurs choses. On va y retrouver de l'art. Donc, tous ceux qui ont raconté et contribué à nourrir les imaginaires des quartiers. Parce que finalement, autour de toute cette démarche, de toute cette dynamique, notre enjeu, c'est soigner les imaginaires. C'est prendre soin de nos mythologies. Et donc, on allait dire qu'on a été les mieux placés pour cela. Donc, on va mobiliser d'autres auteurs, on a déjà des propositions. On a déjà quelques livres qui arrivent, qui sont programmés, mais je ne vais pas vous en parler tout de suite parce qu'il faut stabiliser tout ça. Mais effectivement, créer la maison d'édition, c'était créer la plateforme, créer ce fameux espace d'expression
Et avec des photos hein, d'artistes.
Tout à fait. Donc on va retrouver Martine Barra, une grande dame incroyable. D'ailleurs, Martine, si tu m'entends, je t'embrasse. Et si tu ne m'entends pas, je vais t'envoyer l'audio. J-Wan, le grand frère. J-Wan, c'est une légende du graff. Et c'est un homme qui est juste incroyable, de simplicité, accessible et d'une intelligence, vraiment une bienveillance humaine qui est tellement rare. Et donc, on va le retrouver. La première exposition avec Agnès B. en France, à Gare du Nord, bah c'est Jay, il en faisait partie. C'est le patrimoine aussi. En parlant de patrimoine, il y a quand même Mode Tout. Mode Tout, c'est une légende. Tous ceux qui connaissent un peu le graffiti et un dessin qui est véritablement reconnaissable entre mille, un tracé qui est la signature de Mode Tout, il est connu à l'international. Et surtout, c'est un défenseur de cette culture et de ce mouvement qu'est le hip-hop. On va retrouver Harry Less de Tizzy, qui est juste incroyable. Il a des très belles peintures à l'huile. D'ailleurs, c'est le seul artiste qui a deux œuvres dans l'ouvrage. Des très belles peintures à l'huile. En ce moment, il se déploie au Japon. Et on va retrouver Hugh Lawson Body, un photographe incroyable, un ami et frère qu'on va retrouver ici. Il a des très belles expositions. Très récemment, il y a quelques mois, il avait une belle exposition hors les murs dans Paris qui s'appelait « Jeunes Parisiens ». On va retrouver Fleur Blum, une très belle artiste qui propose des œuvres. C'est très floral, très végétal. Elle a fait les beaux-arts et elle est très inspirée par le monde urbain. Et donc une patte très singulière. On va retrouver Khalidovski, qui travaille avec l'IA, c'était important. Parce qu'en fait, ces artistes sont aussi, ils racontent toute cette évolution dans le temps. On va retrouver A1 qui est un tagger.
Et je laisse aussi aux éditeurs de découvrir l'écriture qui est quand même. Parfois, on sent qu'il est très imprégné par le rythme du rap. Hein. Je ne veux pas donner d'exemple, hein, mais c'est vrai qu'on sent que votre façon d'écrire, il y a le flow. Vous l'avez dit d'ailleurs, il y a du flow.
Bah, merci.
On sent l'influence du rap dans votre écriture.
Le rap, le jazz, la littérature. Et effectivement, le rap m'a ouvert aux mots. Véritablement, je suis tombé dans les mots comme Obélix est tombé dans la marmite. Moi, je suis tombé dans le rap. Et véritablement, on m'a ouvert aux mots, au sens et à la capacité de finalement, on pouvait, quand je devais avoir une dizaine d'années, je voyais qu'on pouvait être beau et cracher du feu, je dirais.
Voilà, donc j'envoie nos auditeurs à ce livre. Ahmed Bouzouaïd, merci.
Merci
d'être venu nous rendre visite à l'antenne d'Aligre FM. Donc le livre s'intitule « Je dois faire du cash, boy ». C'est donc la petite histoire de l'entrepreneuriat des quartiers de France. C'est aux éditions Maison Mégayère. Merci à Manguri qui était à la technique ce soir. Dans un instant, vous retrouverez Dancehall Reggae Vibes et à 22h30 Audiométrique. Restez à l'écoute d'Aligre FM. Passez un bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain. À bientôt.
Version originale. Patrick, Léon Émile. Yeah. Yeah.
Slash. Drugs got me waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got two in the baby on my bitch's student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson's bitch a potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. But they try to make a play for the yeah, as soon as they taste it.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.